Et à 18h sur France Culture, le journal est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un journal largement consacré aux suites de l'assassinat de Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Le gouvernement a lancé ce matin une vaste offensive contre la mouvance islamiste en France. Les policiers ont effectué de nombreux contrôles, ciblant plusieurs dizaines d'individus. Par ailleurs, Gérald Darmanin entend dissoudre deux associations, l'ONG Baraka City et le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, qui affirme qu'il existerait une islamophobie d'État dans notre pays. En Tunisie, un député islamiste justifie la décapitation de Samuel Paty. Une enquête est ouverte, mais ses propos ont leurs partisans dans le pays. Les régions de France qui tiennent leur congrès ont tenu à rendre hommage à l'enseignant tué. Un congrès consacré au plan de relance économique du gouvernement. Les explications à suivre de Stéphane Robert. C'est toute l'Europe qui est désormais confrontée au rebond de l'épidémie de Covid-19. Le pays de Galles ordonne un nouveau confinement général de sa population à partir de vendredi. C'est la première région européenne à reprendre cette mesure radicale. Trois jours après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement a donc décidé de s'attaquer à la mouvance islamiste en France. Plusieurs opérations de police ont été lancées ce matin contre des représentants de cette mouvance qui ont pignon sur rue dans notre pays. Pas une minute de répit pour les ennemis de la République, avait averti le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Europe 1. Sarah Mansoura, bonsoir.
Bonsoir.
On en sait plus ce soir sur ces opérations de police lancées dans tout le pays.
Une quarantaine de visites domiciliaires réalisées aujourd'hui, explique l'entourage du ministre de l'Intérieur. Des contrôles qui relèvent de procédures administratives et non pas judiciaires, encadrées par la loi d'octobre 2017, dite SILT, sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Elle suppose une autorisation préalable du juge des libertés. 30 visites domiciliaires ont eu lieu ce matin dans 12 départements, principalement en Île-de-France, et il en reste 10 à faire d'ici ce soir. Une personne est déjà en garde à vue. Ces visites ne sont pas directement liées à l'attentat. Elles concernent soit des personnes qui ont pu se réjouir de l'attaque sur les réseaux sociaux ou lors de prêches, soit différentes organisations, structures ou mosquées, c'est le renseignement territorial ou la DGSI qui désigne ces cibles repérées de longue date pour radicalisation. Le but de ces opérations, selon la place Beauvau, c'est de déstabiliser un écosystème qui grandit. L'ambition affichée étant de mettre la pression sur une certaine mouvance et dès demain réaliser une vingtaine de ces visites domiciliaires par jour. Parmi les plusieurs dizaines d'associations scrutées de près, 51 sont identifiées par le ministère et pourraient être dissoutes via une procédure administrative contrôlée par un juge.
Sarah, revenons à présent sur l'enquête sur l'attaque de vendredi, 15 personnes sont toujours en garde à vue ce soir et parmi lesquelles un parent d'élève qui avait jeté en pâture l'enseignant dans une vidéo largement reprise sur les réseaux sociaux.
Oui, 15 personnes, soit 4 de plus aujourd'hui. Parmi elles, un individu déjà condamné pour terrorisme et qui déclare spontanément aux enquêteurs avoir été en lien avec l'assaillant quelques temps avant les faits. Mais dans ces 15 personnes aussi, 4 collégiens. Jusqu'à présent, un seul était interrogé, il a été relâché. Ces élèves sont au cœur d'une question. Ont-ils, malgré eux, désigné leur professeur à l'auteur de la attaque. Une source proche du dossier évoque un échange d'informations contre rémunération. C'est ce que les enquêteurs doivent éclaircir ces prochains jours. Notons qu'en matière d'antiterrorisme, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures prolongeables.
Sarah Mansoura, merci. Alors, dans cette offensive contre la mouvance islamiste, Gérald Darmanin entend dissoudre plusieurs associations. Le ministre de l'Intérieur en a cité deux ce matin. Baraka City, une ONG fondée par des musulmans au profil salafiste, et le CCIF. On va s'intéresser ce soir à ce collectif contre l'islamophobie en France. Avec vous, Cécilia Arbona, bonsoir.
Bonsoir.
Cécilia, le CCIF a une obsession, l'islamophobie supposée de l'État français.
Et on peut dire que c'est l'obsession de son fondateur, hein, Samy Deba, 48 ans, enseignant d'histoire-géographie à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise, président historique de ce mouvement entre 2003 et 2017, avant de se lancer en politique. Et on peut dire qu'il a réussi, Samy Deba, puisqu'à deux reprises, il a créé La Surprise, se qualifiant deux fois pour le second tour aux élections législatives de 2017, puis au municipal de mars dernier à Garges-lès-Gonesse, dans sa commune. Le ministère de l'Intérieur considérait l'hiver dernier sa liste comme communautariste et lié à l'islam politique. Alors, faut-il dissoudre cette association? On va écouter la journaliste Isabelle Kersimon. Elle travaille depuis 10 ans sur la rhétorique, le discours du collectif contre l'islamophobie. Et vous allez l'entendre, elle pense que ce n'est pas une bonne idée. Écoutez.
La dissolution, en tout cas, je parle du CCIF, hein, c'est pas du tout la bonne solution pour ramener la jeunesse musulmane qu'on estime égarée, pour la ramener à la République. Et je ne suis vraiment pas, une amie du CCIS. Je trouve qu'il y a des confusions tout à fait terrifiantes. Il faudrait que la République arrête de se mettre au niveau du collectif contre l'islamophobie en France. Je trouve ça assez invraisemblable. La colonne vertébrale du CCIS, c'est vraiment une notion très extensive de l'islamophobie. C'est-à-dire le grand complot contre l'islam et les musulmans. La France n'est pas institutionnellement islamophobe, contrairement à ce que prétend le CCIS. Hein. Tout cela est faux. Moi, je pense qu'il faut, dans le cadre démocratique, opposer au discours du CCIS d'autres discours emportant d'autres valeurs.
Isabelle Kersimon, alors dissoudre le CCIF serait donc prendre un risque, le risque de voir disperser dans la nature les 2000 membres officiels de ce mouvement et qu'ensuite ils passent complètement sous les radars.
Cécilia Arbona, merci. Dans ce combat contre l'islamisme, le gouvernement veut éviter le piège de l'amalgame avec l'islam et les Français musulmans. Et c'est dans cet esprit qu'Emmanuel Macron recevait cet après-midi les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Rien à filtré de cette réunion sur laquelle l'Élysée ne souhaite pas communiquer. En revanche, le recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, a pris la parole à l'issue de l'entretien.
Le président de la République est déterminé à aller jusqu'au bout. Et son discours des Mureaux était le début d'un processus. Et il nous a demandé de le soutenir et nous le soutiendrons pour cela. Nous sommes dans un pays de la satire, nous sommes français et nous devons accepter toutes les règles, même celles de la satire, même si ça nous embête, même si ça nous irrite. Ben, il faut pas les regarder pointe à la ligne. Je suis favorable à l'élaboration d'une charte de la laïcité pour qu'on rappelle, qu'on matraque que nous sommes dans un pays où la laïcité est la valeur suprême. La première des mesures que les mosquées doivent prendre, c'est travailler sur le discours. Aujourd'hui, nous devons prévenir la radicalisation. Il faut que nos imams puissent aller sur le terrain et apporter notamment la contradiction à ceux qui aujourd'hui sont en train de dévoyer le message coranique, et ce travail doit être fait que par des imams. Ça, c'est la première des mesures. La deuxième, c'est que nos imams, ici en France, doivent être formés, doivent être bien formés, et nous devons réunir toutes les conditions pour pouvoir former nos imams ici en France. C'est ça les deux mesures essentielles que nous devons mener au niveau des musulmans de France.
Le recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz. L'onde de choc provoquée par la décapitation du professeur d'histoire géo s'est propagée jusqu'en Tunisie. Un député islamiste radical a posté sur les réseaux sociaux un message justifiant l'assassinat de Samuel Paty. Le parquet antiterroriste tunisien a ouvert une enquête. Le pays est choqué, mais aussi déchiré, car l'islamisme a ses partisans en Tunisie. Maureen Mercier nous appelle de Tunis.
Le député Rached Rehari a publié sur Facebook ceci: porter atteinte au prophète est l'un des plus grands péchés qui soit. Tout homme qui s'en rend coupable doit en assumer les conséquences.
C'est de l'apologie du terrorisme.
Neji Bouri est journaliste, militant des droits de l'homme. Depuis toujours, il lutte contre l'islam radical. Lorsqu'il a lu les propos du député, il a compris qu'un cap avait été franchi.
Le terrorisme a gagné du terrain. Pas seulement au niveau populaire, dans le pouvoir. La démocratie tunisienne est en danger, ça me fait peur.
Des centaines de commentaires sont venus appuyer les propos du député, bien d'autres le condamner. Ces propos illustrent combien le pays est de plus en plus déchiré. Zoyeb Rayati, directeur Afrique du Nord de l'ONG Reporters sans frontières, est ulcéré, mais pas surpris. Pour lutter contre l'islam radical, il faut dialoguer, pas le choix, dit-il.
C'est l'exclusion qui est le terreau du terrorisme et du radicalisme islamiste. Ce député, ceux qui ont voté pour lui, c'est les plus marginalisés. À la base, il faut renouer le dialogue avec les exclus, avec cette population qui ne sent pas qu'elle fait partie de la République et de la Tunisie qui campe. C'est la culture du dialogue qui va pouvoir sauver les Tunisiens.
L'affaire est désormais entre les mains de la justice, du Parlement également. Ils devront déterminer si Rached Rehari doit être destitué. Depuis son post Facebook, le député a réitéré ses propos à plusieurs reprises.
Maureen Mercier, notre correspondante en Tunisie. Retour en France pour évoquer la réponse politique à l'attaque de vendredi. Le Sénat examine en ce moment même une proposition de loi qui vise à inscrire dans la Constitution la prééminence des lois de la République sur toute autre règle. Cette PPL vise à fournir un cadre constitutionnel pour sanctionner toutes les dérives, comme celles qui considèrent que la loi islamique l'emporterait sur la loi républicaine. C'est l'un des questeurs du Sénat, le sénateur Les Républicains de la Manche, Philippe Bas, qui est à l'origine du texte.
Cette loi vise à rendre clair un principe républicain que nous n'aurions jamais dû perdre de vue. Nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de ses origines ou de ses croyances pour exiger qu'il soit dérogé au respect de la règle commune. On entend par règle commune toutes les règles qu'on peut avoir dans les transports publics, les règles d'accès à l'hôpital. Une femme ne peut exiger, par exemple, d'être examinée par une autre femme. Bref, nous voulons qu'une référence soit clairement établie pour cesser de faire concession sur concession pour en arriver à fragmenter notre organisation sociale. Il faut donner un coup d'arrêt au salafisme. Ça n'est pas une religion, c'est une idéologie politique qui mine les principes républicains, et les républicains doivent faire front pour s'y opposer, pour que chacun vive en paix en France, que la coexistence des religions soit bien assurée par le principe de laïcité.
Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, il répondait à Stéphane Robert. Après le vote au Sénat prévu dans la soirée, cette proposition de loi sera transmise à l'Assemblée. Et si elle est adoptée dans les mêmes termes, le président de la République pourra, s'il le souhaite, organiser un référendum afin d'inscrire cette loi dans la Constitution française. Journée spéciale sur France Culture après l'assassinat terroriste d'un enseignant. Que peut la République ? La lutte antiterroriste doit-elle être réévaluée ? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Alors parmi les hommages politiques à Samuel Paty, il y a cette minute de silence observée en ouverture du 16e congrès des régions de France. Les 13 présidents de régions qui sont réunis à Paris pour discuter du plan de relance gouvernemental pour sortir le pays de la récession après la crise sanitaire. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Le Premier ministre Jean Castex est intervenu tout à l'heure à la tribune du Congrès et il est bien sûr revenu sur l'assassinat de l'enseignant.
Oui, Jean Castex a d'abord rendu un bref hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine. Il a qualifié cet attentat d'acte barbare perpétré contre la République, au lendemain duquel il a promis des actions fortes. Mais ce n'est pas sur cette question qu'il était attendu ici à Saint-Ouen, il était attendu sur la manière dont l'État avait l'intention d'associer les régions à la lutte contre la crise sanitaire et à la relance de l'économie. Écoutez notamment ce qu'a réclamé la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
Et ce dont je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas craindre de régionaliser la bataille contre le Covid. Allons au bout de la logique. Il faudrait conférer aux régions des compétences propres en matière de santé et placer les ARS sous l'autorité des présidents de région, car nous pouvons mieux que d'autres établir un dialogue fructueux avec tous les acteurs, les hôpitaux publics, les cliniques, les laboratoires, les universités. Nous gagnerions en cohérence et en fluidité d'action. Faites-nous confiance. Appuyez-vous sur les régions, pas à moitié, pas à la marge, pas par un coup de téléphone pour nous annoncer ce que l'État a décidé.
Les ARS, ce sont les agences régionales de santé qui ont montré qu'elles avaient plutôt été un frein dans la gestion de la crise. Jean Castex lui a répondu en rappelant que les relations entre l'État et les régions s'étaient nettement améliorées au cours des dernières semaines.
Cette volonté commune s'est concrétisée le 28 septembre dernier par la signature à Matignon avec vous tous d'un partenariat centré autour de notre engagement réciproque à soutenir massivement la relance et la reprise économique. Par cet effort sans précédent, l'État fait de vous des partenaires majeurs de la relance.
Cet accord signé le 28 septembre prévoit des investissements dans le cadre du plan de relance de 20 milliards d'euros de chaque côté, d'un côté l'État, de l'autre les régions. Jean Castex a également confirmé que les comités de suivi du plan de relance seront copilotés à la fois par l'État et par les régions. Mais il n'est pas allé plus loin, il n'a rien annoncé de vraiment nouveau. Il faut bien voir que derrière cet appel des régions à ce qu'on leur confie plus de pouvoir et derrière les réticences de l'exécutif, il y a un enjeu. Les élections régionales prévues en mars prochain, des élections dont plusieurs présidents de région entendent faire une rampe de lancement dans la perspective de la présidentielle de 2022.
Stéphane Robert, merci et merci à Yvan Turc pour les moyens techniques. Le ministère des Finances a réuni ce matin à Bercy les syndicats de salariés de l'usine Bridgestone de Béthune ainsi que les représentants des élus. Il serait possible de poursuivre la production de pneus à Béthune, mais en conservant seulement la moitié des salariés. Ce projet se fonde sur une expertise qui avait été commandée au cabinet Accenture. Le fabricant japonais serait prêt à y réfléchir. Marie Viennot.
Le rapport présenté ce matin à Bercy à la quarantaine d'élus du Pas-de-Calais et de syndicalistes de Bridgestone n'est qu'un rapport d'étape. Mais les pouvoirs publics disent qu'il les a éclairés sur deux points. 1. Le marché du pneu en Europe est difficile et les scénarios envisagés par Bridgestone n'étaient effectivement pas viables économiquement. Mais 2. Il existe un autre scénario dans lequel Bridgestone continuerait à produire 3 millions de pneus par an, mais à plus forte valeur ajoutée. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie.
C'est aujourd'hui un scénario qui envisage, et c'est un chiffrage qui a été partagé avec Bridgestone, donc on va dire autour de 100 millions d'euros d'investissement, avec un maintien d'effectifs de l'ordre de 400 salariés. Vous n'aurez pas échappé qu'il y en a 843 aujourd'hui. C'est un scénario qui suppose des gains de productivité allant entre 25 et 40% de gains de productivité. Et c'est ce scénario que nous souhaitons étudier jusqu'au bout avec Bridgestone.
La direction européenne de Bridgestone aurait accepté de réfléchir à ce scénario qui pourrait être en partie financé par de l'argent public. 10, 20, 30%, ce sera plus si on a un bon projet industriel, a souligné Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Jusqu'à présent, les syndicats ne négociaient que dans le cadre d'une fermeture de l'usine de Béthune. Il y a donc un mieux, reconnaît leur avocat Stéphane Ducrot.
C'était un point d'étape, ce point d'étape, moi en tous les cas en tant qu'avocat des salariés, il m'a soulagé. Ouais.
Finalement, le ministère de l'Industrie fait savoir que le nombre d'emplois sauvegardés pourrait être plus élevé, entre 460 et 560 emplois. Rendez-vous a été pris dans 3 semaines pour refaire le point sur ce scénario.
Marie Viennot, merci. Face au rebond épidémique dans toute l'Europe, le Pays de Galles est la première grande région européenne à ordonner un nouveau confinement général. C'est ce que le Premier ministre gallois vient d'annoncer aujourd'hui. La mesure sera effective à partir de vendredi et durera un peu plus de 2 semaines. Correspondance de l'envoyé spécial permanent de France Culture au Royaume-Uni, Richard Place.
Voici donc plus de 3 millions de personnes sous confinement. Un confinement que le Premier ministre gallois qualifie de court et net pour ralentir le virus. Il entend ainsi endiguer l'infection qui s'emballe depuis le début du mois. Les élèves du primaire pourront aller à l'école, les collégiens aussi, mais jusqu'à l'âge de 13 ans seulement. Tous les autres doivent rester à la maison. Les commerces jugés non essentiels vont fermer, comme les restaurants, les coiffeurs, les hôtels, les pubs. Des dérogations seront possibles quotidiennement pour aller faire de l'exercice ou pour des déplacements indispensables. Le Pays de Galles frappe fort, là où l'Angleterre hésite depuis plusieurs jours, tiraillée entre l'urgence médicale et la réalité économique. Les autorités galloises ont pris cette décision à la lumière de chiffres alarmants dans les hôpitaux. Sans cela, les services de santé ne seront plus capables de s'occuper de ceux qui tombent malades, dit aujourd'hui le Premier ministre.
Richard Place, notre correspondant à Londres. Et puis on l'apprend à l'instant, Brigitte Macron est considérée comme cas contact au coronavirus. L'épouse du président va observer une période d'isolement de 7 jours, conformément aux directives sanitaires. C'est ce que indique ce soir son entourage, l'entourage de l'épouse du chef de l'État, qui précise aussi que Brigitte Macron ne présente à ce jour aucun symptôme de la maladie. C'est un succès pour Recep Tayyip Erdogan. L'actuel Premier ministre de la République turque de Chypre Nord, Ersin Tatar, a été élu ce dimanche président de cette République autoproclamée, reconnue uniquement par Ankara. Ersin Tatar a recueilli 51,7% des voix à l'issue du second tour. Il était le favori du président Erdogan. L'ex-président bolivien Evo Morales se réfugie en Argentine, affirme qu'il rentrera tôt ou tard dans son pays. Première réaction de Morales au lendemain de la victoire dès le premier tour de son dauphin Luis Arce à l'élection présidentielle en Bolivie. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mon grand souhait est de retourner en Bolivie dans ma région. C'est une question de temps, a déclaré Evo Morales, qui avait démissionné en novembre 2019, accusé de fraude électorale par l'opposition. Evo Morales qui avait fui au Mexique puis en Argentine. On termine ce journal avec le temps demain qui sera agité avec du vent et de la pluie sur une grande partie du pays. Les rafales pourront dépasser les 160 km/h sur les crêtes pyrénéennes. Il pleuvra l'après-midi de la façade atlantique à la frontière belge. Le temps sera plus sec sur la moitié est. Les températures sont en hausse, entre 2 et 15 degrés le matin du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 14 et 19 degrés sur la moitié nord, entre 17 et 24 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.